Déclaré habitant des zones rouges par la communauté internationale, les populations de Dropo s'en rendent compte au fil du temps passant que le fondamentalisme violent annoncé s'est installé à dose amitotique dans la région du Bunkani. Ainsi, l'administration locale, les forces de défense et de sécurité et la population ont pris des mesures pour assurer la protection de leurs biens, engins roulants, voitures et motos, sujets à de fréquents incendies, des récoltes et le bétail exposé aux vols récurrents, et aussi et surtout assurer la sécurité de la personne humaine contre les exactions perpétrées par des inconnus de la guerre asymétrique du Nord. L'objectif de ce dossier est que l'ensemble de ces mesures prises à Dropo puissent servir de point de mire aux populations des autres contrées du Nord où tente de s'implanter l'extrémisme violent. Reportage réalisé et présenté par Jérôme Kwasi de Bouna dans le Bunkani pour la Radio de la Paix. Nous sommes à Dropo, à l'extrême nord-est et à la frontière de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Ici, l'extrémisme violent annoncé dans la bande dite rouge se dévoile avec le temps passant, reconnaît Sidibé Mamedi, délégué départemental du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section de Dropo.
Chose que la population même ignorait, jusqu'à ce que ces actes de vandalisme viennent se mélanger dedans. Maintenant, la population sait vraiment que non, la zone rouge dont l'État avait dit que non, le Bunkani est dedans, c'est maintenant, la population se sent dedans.
Face à la persistance des incendies de voitures et maintenant des tricycles et des motocyclettes, l'explanade de l'hôtel de la ville a été le lieu choisi pour garer les véhicules la nuit venue sous surveillance policière.
La police a convenu que non, il y a un espace bien large au niveau de l'hôtel de ville de Dropo, communément appelé mairie. C'est là-bas tous les engins se garent, que ce soit engins à deux roues, engins à trois roues ou que ce soit les voitures. Pour une personne qui se dit que non, si je gare ma moto ou j'ai garé avant, ce n'est pas en sécurité. Ces personnes-là vont directement sur l'esplanade de la mairie qui est d'ailleurs devant le commissariat de la police mixte de Dropo pour garer leurs engins.
Est-ce que c'est vraiment tout le monde qui vient garer les engins là-bas?
Bon, si déjà tu as une voiture, tu sais que non, tu as un garage bien couvert. À quoi ça sert d'aller bourrer la place? Donc tu gares là-bas. Les motos aussi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent rentrer avec leur moto dans le salon de leur maison pour pouvoir sécuriser ça là-bas.
Une décision concertée de l'administration, de la population et des forces de défense et de sécurité que salue Krakoko Benanjaque, président de la cellule civilo-militaire de Dropo.
Et là, nous saluons au passage l'action de nos forces de défense et de sécurité qui veillent de jour et de nuit pour assurer un peu la sécurité de ces engins-là. Donc, je pense que pour ceux qui ont des petits engins comme les motos, les vélos, mais vous les mettre dans un endroit sûr, fermé à clé, je pense que ça pourrait éviter encore d'autres incidents.
Le vol de bétail est un mode opératoire courant utilisé par les ravisseurs pour éviter l'enlèvement du bétail itinérant avec la déferlante transhumance de troupeaux d'animaux d'élevage venus des pays du Nord, il faut créer des espaces aménagés et dédiés à l'élevage sous contrôle des bouviers, plaide Kambiré Brahima, un propriétaire de bœufs.
Président des jeunes Laurent, en élevage, parce que c'est pas en sécurité, c'est affaire de manque d'eau. Si on pouvait nous aider avec un pâturage, avec un couloir de passage, avec des barrages là à côté, on peut avoir fourrage quelque part comme ça. Là, on peut rassembler les bœufs là et puis les donner à notre bouvier qui peut les surveiller. Il n'y a pas l'eau. C'est ça même qui cause problème même. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'on promène avec les bœufs là beaucoup. S'il y a point d'eau que les bœufs peuvent boire dedans, il n'y a pas de problème.
Lanta Tipouté, un opérateur économique, trouve difficile cette idée à mettre en œuvre au vu de l'immensité de la zone à sécuriser.
Par exemple, j'ai des bœufs à Niamoy. C'est là-bas que j'ai mon parc. Le mois, je vais chasser les bœufs pour venir à Dropo. Je pense que c'est éloigné. Mais si on trouve un site à Niamoy où tous les bœufs de Niamoy se regroupent là et puis les bouviers sont en même temps les gardiens de ces animaux, je pense que c'est la bonne solution.
À Dropoville, ce problème a trouvé solution avec l'aménagement du poste d'entrée à bétail qui a été agrandi, un parc moderne pouvant abriter un nombre important de bêtes d'élevage de Dropo.
Ça va, Dro, Issa.
Comment est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a réglé le problème des éleveurs ici à Dropo?
À la rentrée de Dropo, l'État a rangé un coin là-bas dans le parc rentrée pour que ceux qui ont leurs bœufs en brousse, bon, les dresser en brousse là-bas, et puis envoyer leurs bœufs en ville là-bas, là, lui qui veut vendre. Et puis enlever son bœuf pour vendre. Il y a la nourriture. L'homme qui veut payer la nourriture pour donner à son bœuf, la nourriture à côté, tout au lieu de rester en brousse là-bas. Les animaux qui sont là aussi, si tu viens avec aussi, il y a des corabiers qui sont là, c'est eux qui s'occupent de ça pour qu'il ne faut pas un voleur va venir voler. C'est l'armée même qui s'occupe de ça. C'est eux qui gardent vos bœufs en sécurité. Il n'y a pas de problème.
Les enfants bouviers mineurs ont été interdits de conduire les bœufs par l'autorité administrative et coutumière en accord avec les éleveurs. Cambiro Olo, Michael.
Quand on prend maintenant un enfant qui est en train de suivre les bœufs, on l'envoie chez le chef de terre.
Avec l'enlèvement des enfants qui est récurrent là, c'est pas bon pour les enfants eux-mêmes. Nous recommandons à ces parents là de revoir, voilà, de revoir les manières d'utiliser les enfants.
Tiripouti Lantan s'oppose à cette pire forme d'exploitation des enfants qui peuvent se faire bastonner par les ravisseurs.
Vous voyez, si c'est un petit bouvier qu'on trouve en brousse avec un troupeau de bœufs, je crois que celui-là même, on peut le bastonner. Hein, il va fuir les ces bêtes et puis ils vont emporter.
Le vol récurrent constaté de bétail contraint de nombreux éleveurs du Bunkani à l'exode vers d'autres régions du pays, surtout vers le Ghana voisin, une situation inquiétante que révèle le directeur régional des ressources animales et halieutiques du Bunkani, Kanga Armand.
Avec l'épisode de la COVID-19 et les problèmes sécuritaires que connaissent depuis quelques années les pays sahéliens, je dirais que le tableau n'est pas très reluisant. Nous enregistrons ces dernières années un exode massif d'éleveurs vers d'autres départements et vers le Ghana, car il devient de plus en plus difficile de pratiquer l'élevage des ruminants dans la région du Bunkani.
À ces différentes difficultés d'élevage liées aux aléas climatiques auxquels s'ajoute le vol de bétail orchestré par des ravisseurs inconnus, les gros éleveurs qui ont compris ont vendu une partie de leur bétail pour se convertir dans le commerce et dans l'immobilier, nous apprend Olo Michael.
D'autres ont fait de ces magasins, d'autres ont construit des maisons en location.
Cette attitude résiliente a surtout permis d'abaisser les tensions intercommunautaires, source de récurrents conflits entre les agriculteurs et les éleveurs dans une région déjà fragilisée par des vulnérabilités.
Aujourd'hui, dans la zone en tout cas, le conflit avant entre éleveurs et agriculteurs, ça a baissé. Beaucoup ont compris, ils ont investi dans l'immobilier, des maisons en location, des magasins, de commerce, donc beaucoup ça a baissé.
Le vol de bétail et de récolte sont des priorités pour l'entretien des troupes. Le sachant, les paysans, pour éviter le vol de leurs produits agricoles, ne laissent plus les récoltes dans les champs en guise de précaution, explique Tilpouté Lanta, l'opérateur économique.
Pour le mil, pour le sorgho, bien pour le petit mil que les gens récoltent dans les champs, je ne pense pas que ça fait 2 jours là-bas. Parce que les greniers sont à la maison. Quand on finit de récolter, c'est juste le temps de pouvoir les transporter, envoyer en ville, ce qui fait que d'autres bouviers, ne voyant pas le protège de champs, chassent ses bœufs et les introduisent. Dans ces temps-ci là, tout le monde a son grenier à la maison. Des fois même, ce n'est pas des greniers en tant que tel, mais c'est des magasins où des gens reviennent des champs avec leurs récoltes. Et puis bon, ils essaient d'entretenir, bon, pour les garder pour vivre. Il n'y a plus de greniers dans les champs maintenant. Parce que le monde est vraiment cruel, que des gens peuvent aller même te prendre ces vivres-là même sans que tu ne saches. Ils peuvent même enflammer ton grenier au champ parce que c'est fait à base de paille et puis de terre. Donc si quelqu'un est contre ta récolte, peut facilement incendier ton grenier pour ne pas que tu puisses gagner à manger.
Dans la lutte contre les incendies des véhicules, une décision préfectorale a interdit la vente de l'essence hors station. L'essence vendue en détail dans la rue est supposée être utilisée par les pyromanes dans l'incendie des engins. Une disposition qui ne peut empêcher l'incendie des véhicules pour Tilpouté Lanta.
Pour la vente de carburant, je ne pense pas que cela est vraiment un impact. Parce que tu peux aller dans une station avec ton engin roulant, tu peux remplir ton réservoir et aller après vider, mettre dans un bidon ou dans une bouteille pour faire ce que tu as envie de faire. Donc moi, je ne vois pas trop d'impact là-dessus.
Ce qui concerne la vente de carburant, c'est une loi qui existait bien avant, hein, bien avant ces trucs qui viennent s'ajouter là.
Pourtant, cette mesure concertée a été suivie par les populations d'ici, surtout que c'était de l'essence trafiquée qui minait notre économie.
Moi, je trouve que c'est encore bon si on interdit, parce que ce n'est pas de bonne qualité par rapport pour nous. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, nous, on vend de la bonne qualité d'essence par rapport à eux. Trafiquer, là, faisait que non, ça gâtait moto des gens. Et en plus de ça, ça a fait tomber l'économie du pays. C'est la Côte d'Ivoire qui perd. Interdit, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne plus. Nous sommes en Boucané aujourd'hui. C'est une zone qui est menacée de brûlage de voitures partout. Et je vois que cet individu-là, il trouve facilement l'essence chez les revendeurs par rapport à la station. Parce que l'essence qu'on vend dehors, il y a beaucoup d'essence trafiquée.
Comme vous s'en qui adapté. La décision a été prise par le préfet et les chefs et le roi du Bunkani. Et puis les policiers en âme. La décision était normale. C'est à cause de ça nous avons respecté l'essence que les gens prennent en désordre là. On vend plus ça.
À Dropo, il est rare aujourd'hui de voir un enfant mineur chauffeur de moto-taxi. Comment s'applique cette interdiction?
Cambire Olu Michael. Selon ici, c'est interdit que les jeunes roulent des engins. Formellement interdit au moins de 18 ans. Maintenant, on veille chaque jour. Si on prend un enfant en train de conduire des engins, le chef de sa communauté l'envoie là-bas. Mais si c'est la police qui prend l'enfant, non seulement on met l'engin en fourrière et on garde l'enfant jusqu'à ce que le propriétaire vienne payer une amende avant qu'on le libère.
L'entend-il pouté et si libé Mamedi.
Parce qu'ils ne sont pas conscients, ils peuvent transporter le danger.
La loi ivoirienne même dit que non, il y a un certain âge pour qu'une personne puisse exercer des activités. Bon, si ces personnes ne valent pas l'âge, en tout cas, peut-être les parents peuvent voir que non, ils sont là interdits, mais c'est pour la sécurité des parents même que l'État a mis cette interdiction-là. Voilà, des enfants aussi. Puisque un enfant roulé touristique qui n'a même pas l'âge de 18 ans, il n'est pas mature.
Avec l'insécurité qui règne ici, l'on prend des précautions pour ne pas se trouver seul, surtout la nuit venue. Les femmes, les personnes les plus vulnérables, nous expliquent comment elles s'organisent pour éviter les agressions.
Camille et Vivien. Ici, bon, si les femmes vont au champ, ils vont au moins 4 personnes, bien 5 personnes. Ils vont pas seuls maintenant, comme avant. Au Margot aussi, ils vont comme cela, 5 ou 6 personnes. Une seule personne peut prendre la route par le champ, mais maintenant, là, la manière, le monde est là. Maintenant, ils vont au moins 5 ou 6 personnes.
Nous sommes Nirissara Angéline, présidente des femmes de Dorobo. C'est vrai, les femmes ne vont plus seules au champ aujourd'hui. C'est avec cette histoire de tuerie, couper tête, dont les femmes ont peur. Donc si tu vas quelque part, tu vois qu'il commence à faire soir, faut faire tout possible pour rentrer chez toi. Parce que dans la journée, tu peux vaquer à tes occupations. Mais dans la soirée, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc faut être prudent. À partir de 17h, faut faire tout possible pour rentrer chez toi. Les enfants, on conseille toujours aux enfants de ne pas sortir même. Si tu vas à l'école, dès que tu sors, tu rentres directement à la maison. Faut pas sortir. Si on t'a pas envoyé, faut rester à la maison. On ne sait pas, avec les enlèvements là, on ne sait pas où ça va.
En règle générale, il serait bon d'avertir les forces de défense et de sécurité en cas de déplacement nocturne obligé, préconise l'entatilpouté.
À une certaine heure, je pense qu'on doit arrêter de circuler. À partir de 22h30, 23h déjà, je pense que tout doit être arrêté. Parce que c'est en ces heures-là qu'on trouve les hommes vraiment irréguliers sont en patrouille. Donc c'est donné aux forces de l'ordre de pouvoir faire leur travail en ce moment. S'il y a un truc justificatif, je pense que s'il y a une situation, c'est de les approcher nos forces de l'ordre pour dire, ah, voilà, il y a une telle urgence. Je voulais vraiment, avec votre accord, faire un déplacement de là. Comme ça, on sait que tu n'es pas suspect. Il va falloir qu'on ait ce comportement de civisme-là, qu'on collabore avec nos forces.
L'autorité a fixé au plus tard 23 heures, une heure strictement respectée par la majorité selon Kambou Sansan Kyodipté de Nyembredoua.
À partir de 23h, c'est l'autorité qui ont décidé qu'à partir de 23h, tout le monde n'est qu'à rentrer. Quand tu sors à partir de 23h, en ce moment, nous, on va se rendre compte là. Tu es déjà là-bas. Donc, ça peut ne pas être toi, mais ça va beaucoup te fatiguer. C'est les autorités qui ont décidé cette décision-là. Nous, on respecte ça toujours.
Au mieux, il faut respecter les règles édictées et éviter de prendre des risques selon Krako Kobinan de la cellule civilo-militaire.
Il faut vraiment être prudent et puis il faut faire confiance à nos autorités. Lorsque des consignes sécuritaires sont données, il faut les respecter et il faudra éviter de prendre assez de risques. Les risques, c'est voyager la nuit. Les risques, c'est de se trouver dans un endroit seul et ce qui pourrait nous compromettre en termes de sécurité. Si nous faisons confiance un peu aux instructions sécuritaires données par nos autorités, je pense qu'on serait quelque part à l'abri un peu de tout ce qui pourrait arriver.
La chose que déplorent les populations d'ici, c'est le fait d'être à découvert après une dénonciation auprès des FDS, s'indigne Sidibé Mamedi, délégué départemental du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section de Dropo.
Parce qu'on a eu des cas ici, il y a des jeunes qui disent que non, bon, j'ai déclaré tant, j'ai dénoncé tant, après je suis allé entendre mon nom ici, alors que on peut dire d'une part, c'est pas professionnel ce que ces enquêteurs la font. Parce que quand quelqu'un dénonce quelque chose, ça doit être anonyme. La population a vraiment peur que s'ils dénoncent quelque chose, ils ont peur à ce que leur nom sorte. Ce qui fait peur à la population généralement.
Justement, c'est en cela que s'attelle et travaille la cellule civilo-militaire de Dropo en renforçant la collaboration population FDS, nous indique Krako Kobinan Jacques, président de cette cellule.
Nous essayons de briser un peu ce mur de méfiance aujourd'hui. Lorsque je suis dans une situation un peu inadéquate et que je vois un corps habillé, je dois me sentir en sécurité parce que c'est mon frère, il est en mission et il est là pour nous protéger. Donc nous travaillons à cela, nous faisons des émissions radio, nous sensibilisons les communautés afin de pouvoir vraiment collaborer avec les FDS. Réellement, aucune armée n'a pu combattre le terrorisme. Le terrorisme est combattu par le renseignement, c'est combattu lorsque nos FDS ont l'information à temps réel et là, ils pourront agir. Malgré l'armement sophistiqué qu'ils peuvent avoir, s'ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas être efficaces.
Malgré la forte présence de l'État et la résilience renforcée des communautés, il reste à travailler sur le levier de la collaboration population FDS. Ce reportage a été réalisé et présenté par Jérôme Kwasi de Bouna dans le Bunkani pour le compte de la Radio de la Paix.